Donc bonjour, donc, je m'appelle Ariel Kirou, K-Y-R-O-U. Je travaille beaucoup aujourd'hui sur la question des imaginaires et sur la capacité ou pas des imaginaires à faire évoluer, transformer, nous transformer en tant qu'individu collectif. C'est en gros sur le rôle de la fiction par rapport à l'humanité et par rapport aux paris qui sont aujourd'hui les nôtres, notamment écologiques. Et en rapport aux nouvelles technologies aussi, par ailleurs. Donc ça, c'est le cœur de mon travail, en quelque sorte. Alors ça passe par des livres, comme Dans les imaginaires du futur, dont la version poche est parue chez Helios donc, en 2023. Des bouquins comme l'ABCDIC, ou celui qui sort à peine donc, le 6 juin, qui s'appelle Pourquoi lire de la science-fiction et de la fantasy, avec en sous-titre Manifeste pour les littératures de l'imaginaire. Et sachant que dans ce registre-là, j'ai un autre livre plus philosophique qui sort en septembre, qui s'appelle Philofiction, des imaginaires alternatifs pour la planète. Je pense que les titres parlent par eux-mêmes sur les territoires qui sont les miens et les recherches que j'essaye de mener.
Donc ici, on est à Louvre-Lens-Vallée, c'est-à-dire que vous apportez ici une réflexion, je veux dire, sur le monde et bien sûr sur l'imaginaire et tout son champ d'intervention peut-être, d'ailleurs, avec quel public d'ailleurs aujourd'hui ?
Le public aujourd'hui auprès duquel j'ai tenu cette conférence, c'est un public, de ce que j'ai pu comprendre, assez divers. C'est un public déjà donc, de personnes, de projets, qui peuvent être d'ailleurs de l'ordre de l'entreprise au sens premier du terme, c'est-à-dire entreprise profitable, ou d'entreprise type association, donc de projets donc d'incubation culturelle, c'est des gens qui sont incubés, donc beaucoup de projets très divers apparemment, aux frontières des questions de transition, d'enjeux économiques aussi, mais aussi beaucoup d'enjeux culturels. Donc ce public-là, on va dire d'acteurs de la transformation, d'acteurs de l'entreprise telle qu'elle pourrait devenir demain plutôt que telle qu'elle était hier, de petites entreprises, de petites structures. Et puis il y avait aussi des gens qui me connaissent, quelques-uns, quelques-unes. Il y avait notamment une ancienne étudiante, je ne l'aurais pas reconnue, d'il y a 20 ans, qui a demandé à ce que je l'embrasse. Donc voilà, parce que ça fait toujours plaisir en fait, des gens qui vous disent que l'enseignement un peu rebelle que vous lui avez... vous les avez donné à l'époque, c'était donc à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, où je donne toujours des cours, qui est pour moi une activité annexe en fait, c'est pas mon activité principale, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup enseigner. Et donc j'enseignais à l'époque sur les cultures du numérique, et j'enseigne aujourd'hui sur les imaginaires du futur, et sur le rapport des publics à l'ère numérique, donc le rapport des publics à la culture à l'ère numérique. Donc voilà, donc il y avait une étudiante, il y avait des gens qui m'ont connu, qui sont ici à Lens et qui suivent mes écrits et mon travail, donc qui étaient là aussi au même titre que les incubateurs de Louvre-Lens-Vallée.
Donc Lens, un territoire en pleine recherche de développement. Pour se développer, il faut avoir des projets. Et pour concevoir des projets, il faut sans doute avoir de l'imagination et mettre cette imagination en phase peut-être avec ce qui est possible.
Ce qui est possible ou ce qui est impossible. On a parlé de beaucoup de choses ce matin, mais forcément a été abordée la question de l'intelligence artificielle, et notamment de l'intelligence donc artificielle générative, c'est-à-dire de ces large language model, c'est le terme officiel, c'est au-delà de même des algos comme ChatGPT, qui est le plus connu d'entre eux, la dernière version qui est même qui fonctionne à l'oral aussi, qui est ChatGPT donc 4o, mais il y a aussi Claude, Perplexity, Gemini de Google, voilà toute une gamme en quelque sorte. Donc on a parlé de ces IA. J'en parle parce que pour répondre à cette question de l'imaginaire et de l'imagination, c'est un très bon, très bon, très bon vecteur. Je me sens ni techno-béat, loin de là, ni technophobe. En revanche, je pense qu'on a besoin d'une culture critique par rapport à ces outils, par rapport à ces objets qui nous parlent comme si c'était des humains. On a réellement besoin de les mettre à distance pour bien les utiliser, si on a envie de les utiliser. Donc la critique est absolument majeure. Elle est majeure pourquoi ? Non pas parce que ce seraient des objets fondamentalement destructeurs. C'est des objets destructeurs dès lors qu'on les prend comme on les prend de manière, on va dire, comme si c'était des dieux, quoi. Qu'on les prend comme si ils allaient tout changer, comme s'ils étaient humains. Oui, là, effectivement, potentiellement, ils sont dangereux. Mais la réalité, à mon sens, c'est qu'ils nous montrent à quel point nous sommes médiocres. Si des examens d'école peuvent être passés par ChatGPT, c'est pas que ChatGPT est génial, c'est que nous sommes minables. C'est ça, la réalité.
Alors, pour l'instant, ils ont l'air de vouloir se faire présenter ou représenter par, ou en tant qu'humain. Est-ce que l'étape suivante, ce ne sera pas être Dieu ?
Alors, certains pensent, hein, donc, comme Laurent Alexandre, on va le citer, que potentiellement les IA et nous, avec les IA, nous serons des dieux. Je crois justement que c'est même l'inverse. C'est-à-dire que ce type de technologie nous contraint bien au contraire à revenir à ce qui est fondamentalement humain. L'humain, ce n'est pas la certitude, c'est l'incertitude. L'humain, ce n'est pas le prévisible, c'est l'imprévisible. L'humain, c'est l'inattendu, c'est la véritable intelligence. Ce n'est pas l'intelligence logico-déductive des machines. C'est l'intelligence qui fait qu'on va utiliser un jeu vidéo auquel on a joué et les échanges qu'on a eus à ce moment-là pour discuter avec une vieille dame le lendemain et pour l'aider, par exemple, à remplir sa déclaration d'impôt. C'est ça, l'intelligence. L'intelligence, elle fait des sauts. Elle fait des sauts quantiques dans le temps, dans les moments, dans la géographie. Elle est dans cette imprévisibilité-là, la véritable intelligence sensible, spirituelle, celle qui nous fait sentir meilleurs et plus humains. C'est-à-dire que ces intelligences artificielles, ou dites intelligences artificielles, profitent d'un immense stock de données, ce qui leur donne une sorte de pouvoir, au fond, hein, c'est le pouvoir du commun, du médiocre, avec en plus des logiques de contrôle qui fait qu'elle peut pas, elle est forcément politiquement correcte. Donc ça peut être de formidables interlocutrices que ces IA, mais c'est des autrices, des créatrices minables, mais réellement minables. En revanche, elles peuvent nous aider de manière extraordinaire pour écrire, pour penser, mais à la condition de les mettre à leur place. Donc on a besoin d'imagination, parce que l'imagination, ces machines n'ont pas d'imagination. Ces machines ne sont pas capables de sauter d'un sujet à l'autre. Elles ne sont pas capables de ce qui fait le sel même de ce qui nous constitue en tant qu'humains. Hein, et la grosse difficulté, c'est une fois qu'on a fait ce constat, ne pas dire à la poubelle, mais de dire au contraire, bienvenue. Mais pas dans la logique qui est celle de Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui est de dire... on va les rendre elles vont sembler le plus humaines possible, elles vont nous accompagner partout et tout, comme ça nous contrôlerons l'air de rien, on sera avec notre jolie moyenne, en fait, hein, notre instrument de contrôle permanent avec nous, on sera peut-être plus isolé, mais on sera en dialogue avec une mécanique moyenne, médiocre, même si brillante, hein, en termes de stock de connaissances, en termes de mémoire. Et au fond, cet horizon-là, il est absolument tragique. C'est une nouvelle étape dans le gardiennage du troupeau dont parlait Platon.
Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté sur le terme intelligence et dans la traduction peut-être de ce mot connotation au départ anglo-saxon et qui, dans une certaine manière, rappelait l'intelligence service des services d'État qui essayait de ramener de la documentation, de l'information, des secrets ?
Oui, oui, il y a beaucoup de... En tout cas, beaucoup de confusion. Voilà, beaucoup de confusion. Hein, c'est-à-dire que il y a quand même dans France de la singularité, hein, de ce mouvement de singularité, de ces gens qui pensent que les machines vont devenir super intelligentes et qu'on n'aura pas d'autre solution que de nous hybrider en quelque sorte avec elles, sauf à disparaître, sauf à vivre une extinction. Il y a une vision chez beaucoup des gens qui pensent de la sorte, de l'intelligence, qui est une vision réductrice de l'intelligence, qui est une vision qui correspond au fond à celle des origines de l'intelligence artificielle, qui est une logique logico-déductive, c'est-à-dire une capacité de déduction, une capacité d'analyse à partir de données, quelque part, mais en quelque sorte à l'aveugle. Et c'est vrai que ces mécaniques, puisque ce sont des mécaniques, sont très précieuses par rapport à ça, et ce qui fait leur grande force, par exemple, dans le monde médical, c'est la vaste immensité des données qu'elles sont capables de brasser en un temps absolument inouï, très court, et donc à sortir des occurrences par rapport à ça. Donc ça peut être très précieux dans un tas de cas de figure, mais il faut prendre cette importance pour ce qu'elle est, et aussi, bien évidemment, de se dire qu'il y a, dans le terme intelligence et intelligence-service, il y a la logique du contrôle. Il y a cette logique aussi qui est celle que dénonce à juste titre quelqu'un comme Alain Damasio, qui est à la fois fasciné par ce type d'intelligence artificielle très sophistiquée. Il y a une scène absolument incroyable dans Les Furtifs, que j'ai revu tout récemment, rejoué de manière extraordinaire dans l'Oratorio des Furtifs, qui est une sorte d'opéra à partir des Furtifs, où il y a cette IA taxi, en quelque sorte. Et à un moment donné, le personnage elle se gonfle, et puis il interagit avec elle et il a demandé à ce que ce soit un personnage un peu populaire qui fasse une critique en règle de l'intelligence artificielle et de tout ce dispositif-là. Donc Alain, il est à la fois il met en scène cette fascination, mais il la met à distance quelque part. Hein, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, parce que le monde, notre monde est ce qu'il est, et les gens qui fabriquent l'IA, bah, ils sont ce qu'ils sont aussi, ces gens-là. Eh bien, est inséparable d'une logique de contrôle, est inséparable d'une logique à la fois de mise en conformité, parce que c'est une mise en conformité, cette logique de contrôle, ce qui n'empêche que ces outils ont des capacités et des potentiels extraordinaires. Hein, mais la difficulté, c'est qu'on les fait passer pour ce qu'ils ne sont pas.
Alors, comment intégrer ou utiliser cette intelligence artificielle, la mettre au service de la résilience humaine ?
Alors après, le terme résilience, il est aussi complexe. C'est-à-dire que moi, la première fois que je l'ai entendu, c'est dans les discussions que j'avais eues à une époque avec Boris Cyrulnik. Et cette résilience, c'était par rapport à des enfants qui avaient connu la guerre, la Shoah, et qui avaient dû se reconstruire, en fait, sur un socle de destruction de leur propre humanité. Et de l'humanité qui allait avec, autour, en fait. Et donc, cette résilience, hein, en termes psychologiques, psychanalytiques, c'est quelque chose de... qui va avec une immense douleur, une immense... voilà. Est-ce que nous vivons cette immense douleur ? Est-ce que nous vivons cette immense destruction de nous-mêmes qui était celle d'enfants ayant vécu la Shoah, d'enfants ayant subi des violences sexuelles, ayant subi... je ne crois pas qu'on est à ce point-là, quelque part. Il y a aujourd'hui, la violence, aujourd'hui, elle est, la violence, la destruction, elle est là, elle est présente, on la voit aussi, on voit son horizon. C'est par exemple une violence environnementale, puisqu'en fait, il y a des incendies, on est en perspective à la fois d'une violence de contrôle et d'un climat qui potentiellement peut devenir de plus en plus destructeur, il sera instable, étant instable, étant chaotique, forcément par rapport à l'agriculture ou d'autres, potentiellement, on a des vies qui peuvent être en quelque sorte... mise à mal. Est-ce que c'est le même type de violence que celle dont parlait Boris Cyrulnik par rapport aux enfants ? Je ne crois pas. Est-ce que ces outils peuvent être mis au service de la résilience humaine ? Potentiellement, oui. Pourquoi pas ? Encore faudrait-il savoir les différentes facettes de cette résilience. Et je crois que d'abord, avant toute chose, la résilience, c'est quelque chose d'humain et pas de machinique. C'est-à-dire, lorsqu'on est en salle d'opération, lorsqu'on est en discussion, on a affaire à la technique, parce que l'humain est un être technique. Le langage est une technique. Une table de multiplication est une technique. Un ordinateur est une technique. On est entouré de techniques partout, etc. Les lunettes qu'on porte sont des techniques. Donc, croire qu'il peut y avoir une différence avec d'autres techniques qui peuvent être plus utiles que d'autres par rapport à la résilience est une erreur. Toutes les techniques sont bonnes à prendre dès lors que l'humain s'en saisit à des fins qui sont des fins de recréation, à des fins de constitution, de reconstitution. Et la clé de tout ça, c'est l'humain. C'est le non-humain aussi, c'est-à-dire c'est les êtres, l'animal, la plante est plus utile en termes de résilience que l'IA. Je veux dire, je ne caresse pas une IA. Ah, ok, je peux avoir un bébé phoque, etc., alternatif dans un EHPAD, et ça peut être très utile. Parce qu'effectivement, je me recrée des sentiments, une proximité affective. Mais cette proximité affective, elle ne vient pas de la machine elle-même, elle vient du fait que c'est un bébé phoque qui ronronne, qui a une peluche, qui est doux, qui en quelque sorte est un miroir dans l'EHPAD par rapport à la personne atteinte d'Alzheimer ou par rapport à la personne qui est malade d'une réalité animale, non humaine. Et donc la clé, ce n'est pas la technologie, c'est la capacité qu'on va avoir à nous plonger, à nous inspirer, du vivant, hein, de ce qui est le plus vivant en nous, et à la façon, parce que nous sommes des êtres techniques, dont les différents types de techniques, elles s'appellent IA ou règles à calcul, la façon dont ces différentes techniques peuvent potentiellement contribuer non seulement à une résilience, mais à une régénérescence.
Donc dans les auteurs de science-fiction, d'ouvrages de science-fiction ou de films, on a une imagination parfois débordante. Certains ont des visions positives, voire optimistes, avec l'homme triomphant des difficultés dans lesquelles il se retrouve, et d'autres plus compliquées, je veux dire, parfois très, très sombres.
Oui, alors il y a aujourd'hui toute une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices, beaucoup d'autrices de science-fiction, qui sont très intéressantes. Toute cette génération est vraiment passionnante, qui prend acte de tout ce qu'on dit là, à la fois de ces nouvelles types de ces nouvelles technologies, des enjeux environnementaux. Bon, il y a des logiques de contrôle présentes dans la science-fiction. Hein, on a parlé d'Alain Damasio, mais chez Alain Damasio, il y a à la fois la logique de contrôle et la logique du vivant. Hein, et il y a un jeu entre les deux. Le furtif est d'abord un être vivant qui se défie plutôt du contrôle. Et on pourrait multiplier les exemples. L'ICAM, avec son roman Visite, Becky Chambers, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui prennent acte de, on va dire, d'un monde compliqué, difficile, mais qui mettent en scène une capacité à amadouer en quelque sorte l'utopie, à amadouer un meilleur, même si effectivement tout n'est pas rose. On pourrait aussi parler de Kim Stanley Robinson avec son ministère du futur. Je crois que ces enjeux dont on parle, c'est-à-dire ces enjeux de comme je le disais, de régénérescence quelque part, cet enjeu de pour nous qui est de prendre acte d'un système, d'une logique néo-capitaliste qui ne fonctionne plus, d'une logique prédatrice, d'une logique d'exploitation de toutes les ressources qui plus que jamais marchent sur la tête. Ce constat-là, il est partagé par un très grand nombre d'auteurs et d'autrices qui ne sont pas forcément à l'exact inverse, dans une logique qui se voudrait révolutionnaire au sens propre du terme, au sens d'une révolution pour mettre à bas, mais qui interrogent nos capacités à faire, à penser, avec un E, à penser avec un A, à réparer, à régénérer, à réinventer autrement. C'est-à-dire, on est aujourd'hui dans un entre-deux-mondes. D'ailleurs, le monde dit d'avant n'en finit pas de disparaître, avec des phénomènes de régression, dont l'extrême droite en étant, les Zemmour & Co. en étant la plus parfaite illustration. Sans parler de ce qui passe en Italie, dans le monde, en géopolitique, Poutine et tout le reste, on voit que ce monde-là, ce monde de patriarcal, ce monde prédateur, ce monde d'exploitation de l'autre, il n'a pas disparu, loin de là. Il n'a pas envie de disparaître. Mais à l'opposé de ça, il y a d'autres mondes, d'autres personnes, d'autres individus, des artistes, des créateurs, qui avance dans un sens complètement opposé, qui essaye de se construire ou reconstruire un autre paradigme de société, basé non plus sur la prédation ou même la revendication de pure autonomie, mais sur l'interdépendance, sur l'entraide, sur une faculté d'écoute. Il y a les gens qui se fabriquent des récits. Alors aujourd'hui, ce n'est pas les gens les plus visibles, mais il y en a partout dans le monde, au-delà même des créateurs. Donc là, on est avec ce que, en tout cas ma thèse, c'est de dire ce qu'on vit là, c'est pas la victoire potentielle d'un monde d'hier, prédateur, etc., ainsi de suite, qui va supposer à l'instant que je ne souhaite pas que l'extrême droite l'emporte en France aux prochaines présidentielles. Est-ce que ce sera la victoire d'un monde d'hier basé sur la prédation, sur l'exclusion de l'autre? Ou est-ce que ce sera un chant du cygne? Est-ce que ce sera juste la démonstration que ces gens, à la limite, sont pires que les autres, ils font la même chose? Et est-ce que ça ne nous portera pas à imaginer un monde sans Jupiter, un monde, au fond, dans son essence terrestre et anarchiste, hein, au sens premier du terme? Et ça, c'est un pari, c'est-à-dire c'est pas du tout une certitude. C'est un pari qu'on peut faire. Hein, c'est comme le pari de Pascal, hein, c'est-à-dire on n'est absolument pas dans la certitude, mais je pense qu'on peut faire le pari que ces forces de régression, quelles qu'elles soient, ces forces de contrôle, elles peuvent potentiellement, en tout cas peu à peu, prendre moins d'importance, si ce n'est s'effacer, au profit d'un autre monde, et tout ça partant de ce principe même, cette idée même que nous vivons un entre-deux-mondes. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, on n'a plus de certitude, on ne sait pas dans quel monde on va entrer, mais ce qui se passe au niveau de l'environnement, ce qui se passe au niveau des technologies, nous contraint en quelque sorte à penser et faire différemment. On ne sait pas comment faire, donc on rentre dans une période chaotique, c'est une évidence. Il y aura des dégâts, il y aura peut-être des meurtres, il y aura des emplois qui vont disparaître. Mais est-ce une mauvaise chose? Pas forcément.
Alors, Ariel, pour conclure, est-ce qu'être optimiste ou pessimiste, c'est une question de nature ou c'est une question d'acquis?
Je crois que la question, aujourd'hui, je crois qu'on est au-delà du pessimisme et de l'optimisme. Je pense que moi, j'ai un tempérament optimiste, mais le monde tel que je le vois me pousse au pessimisme. Est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est inné? Je crois qu'il y a des tempéraments. Ces tempéraments sont en partie acquis, ils ne sont pas forcément innés. Hein. Donc, moi, j'ai toujours plutôt porté vers l'acquis plutôt que l'inné. Hein. Donc, mais je crois qu'on peut très bien, à partir d'un socle pessimiste, construire dans une logique optimiste. On peut très bien constater l'étendue des dégâts et se dire qu'on fait le choix, en étant minoritaire, d'être à la fois combatif et d'être optimiste dans l'horizon qu'on a envie de dessiner. Je pense que ça peut nous faire du bien. Voilà. Je pense que ça peut nous faire... Moi, ça me fait du bien, en tout cas. Imaginez que les fictions peuvent contribuer à définir d'autres horizons, non seulement à alerter, mais à définir d'autres mondes possibles. Je pense que déjà, il faut qu'on se rende compte que le monde qui nous est présenté par les médias, le monde qui nous est présenté par quand on allume la radio ou qu'on entend Emmanuel Macron, n'est pas le seul monde possible. Non. Le monde de demain n'est pas forcément soit Mad Max, un monde survivaliste ou de lutte les uns contre les autres, soit un monde hypercapitaliste encore plus précarisé dans lequel on a sauvegardé une vague part de protection sociale et au nom de ça on a accepté en gros d'être déshabillé peu à peu. Non, le monde n'est pas ça ou ça. Les possibilités du monde de demain sont plurielles, sont multiples et c'est nos actions, nos pensées, nos créations qui potentiellement peuvent le faire naître tel qu'on aurait envie. Et la bourse n'est pas éternelle, la notion de croissance d'aujourd'hui n'est pas éternelle, les logiques de profit ne sont pas forcément éternelles, elles peuvent passer par d'autres gens, ça peut être d'autres types de profits, d'autres types de croissance. Je veux dire, il faut qu'on comprenne que l'éventail des possibles est absolument immense.
Et pour ça donc, il faut échanger avec des humains.
Échanger avec des humains et des non-humains, tout à fait. Et des humains ne se prenant pas forcément pour ce qu'ils ne sont pas. Pas forcément uniquement sur le registre du sérieux, mais avec une petite distance et avec la capacité à écouter celui ou celle qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas comme nous. À écouter la plante, à écouter le migrant, quel qu'il soit, à écouter, même à écouter le militant d'extrême droite, en évitant qu'on se foute des baffes les uns l'un par rapport à l'autre. C'est la logique de l'écoute, quoi. Il faut renverser, il faut être zen par rapport à ça. Il faut renverser les perspectives, renverser les attitudes. Et je pense que c'est jouable, même si effectivement, dans un entre-deux-mondes, c'est pas très facile.